le fils Moga. Première partie, chapitre 9. Les bureaux de la banque venaient de s'ouvrir à peine et M. Moga travaillait depuis 2 heures déjà dans son cabinet. Cette pièce étroite, plus longue que large, haute de plafond, prenait jour sur le jardin. On y accédait du vestibule par une double porte matelassée. Une autre, plus petite, pratiquée dans la boiserie du fond, communiquait avec les bureaux par un couloir et un escalier de service. Aucun luxe d'ameublement. Un massif bureau à la Tronchin occupait l'un des angles voisins de la fenêtre, garni de rideaux de serge verte déteinte. À l'angle opposé, une sorte de coffre-fort en châtaignier brut était solidement fixé au mur par des ferrures rouillées. Un fauteuil à siège mobile et 4 chaises de crin complétaient le mobilier. Les parois étaient tapissées d'un papier gris commun, décollé par places et laissant voir le plâtre sali de la muraille. Au-dessus de la cheminée de pierre, peinte en marbre, une pendule à colonne battait les secondes et un semainier indiquait le quantième du mois. Les commis étaient rarement appelés dans ce sanctuaire. Quand ils y pénétraient, c'était toujours avec un battement de cœur et un frisson le long de l'échine, car M. Moga ne les y mandait d'ordinaire que pour leur infliger une semonce de sa voix dure et brève. Lorsque le banquier avait un ordre à donner, il descendait lui-même dans ses bureaux. Les clients qui avaient à traiter d'affaires importantes avec M. Moga étaient seuls admis à gravir les marches du petit escalier. Et encore, devait-il préalablement donner au garçon de caisse une sorte de mot de passe sans lequel la porte leur était impitoyablement refusée. Plus d'un était monté par cet escalier, la tête haute et avec des airs dégagés, qui en était redescendu, l'oreille basse, avec la poitrine serrée par un double sentiment de rage et de désespérance. Les chaises de crin, le papier gris déchiré, la pendule au timbre fêlé, avaient été témoins de lamentables scènes et avaient entendu des paroles terriblement émouvantes, arrachées par la colère ou la prière, proférées par de rudes bouches de paysans ou par des lèvres pâlies de gentilshommes campagnards aux abois, murmurées les larmes aux yeux ou la rougeur au front. Il semblait que les angoisses, les humiliations, les désespoirs, accumulés pendant des années dans cette pièce étroite, s'y étaient condensés le long des murs, avaient imprégné l'atmosphère et donné à l'ameublement cette physionomie sinistre qui contrastait si cruellement avec le spectacle entrevu à travers les vitres poudreuses, avec le jardin où les rosiers grimpants s'épanouissaient, où les oiseaux gazouillaient dans les lilas et les faux ébéniers. La pendule au timbre cassé achevait de sonner 8 heures quand on frappa à la porte du vestibule. « Puis-je entrer ?» demanda Étienne Moga. Et comme la réponse se faisait attendre, le jeune homme, sans plus de cérémonie, pénétra dans le cabinet au moment où un visiteur s'effaçait et disparaissait par la petite porte des bureaux. Étienne eut le temps de reconnaître l'allure oblique et la tête pointue de Jean Berloquin. Cet homme avait en effet une façon d'entrer et de sortir qui n'appartenait qu'à lui. Il coulait son mince et souple corps de belette par les portes à peine entrebâillées, montrant d'abord une figure inquiète et côteleuse, puis un bras, puis le buste qui émergeait, entraînant après lui de longues jambes hésitantes. Quand le client eut complètement disparu,
« Bonjour, c'est toi ?»
fit le banquier avec un froncement de sourcils qui trahissait un commencement d'impatience.
« Que me veux-tu ? »
Le jeune homme était pâle, mais il avait dans le regard quelque chose de net et de ferme, qui annonçait une résolution bien arrêtée.
« Bonjour, père, » répondit-il.
« Je voudrais causer avec toi. Peux-tu m'accorder quelques minutes ?» Le banquier consulta sa montre.
« Je puis te donner une demi-heure, » reprit-il. « Pas une seconde de plus, car j'ai un rendez-vous d'affaires à 8h30. Va, je t'écoute. »
En se réveillant, encore tout remué par les émotions de la veille, Étienne s'était juré d'être brave et de demander carrément une explication à son père. Mais, une fois sous le regard dur et impassible de M. Mouga, il s'aperçut que la chose était plus facile à concevoir qu'à exécuter. Le banquier avait si bien inculqué à tout son entourage le respect du principe d'autorité qu'Étienne envisagea tout à coup, avec une secrète terreur, le moment où il lui faudrait poser des questions qui constitueraient à elles seules un acte de rébellion contre le pouvoir paternel. L'idée d'offenser ce maître, auquel il avait obéi sans discussion depuis son enfance, lui donnait la fièvre. Son gosier desséché semblait lui refuser le service. D'ailleurs, il aimait son père, qui, malgré ses sévérités, avait été toujours juste et bon avec lui. Il ne songeait pas sans un chagrin profond qu'il allait être obligé de le soumettre à un interrogatoire pénible, qu'il se verrait forcé de le juger et, qui sait, de le condamner peut-être. Pendant ce temps, le tic-tac de la pendule résonnait dans le silence. Et Étienne se disait que le temps pressait, que les secondes s'enfuyaient, que cette explication devait avoir lieu en ce moment ou jamais.
« Eh bien, je t'attends !»
s'écria M. Mouga, qui s'était mis à aligner des chiffres sur une feuille de papier.
« À quoi rêves-tu ? Est-ce pour rester là comme un pieu que tu es venu me déranger ce matin ?
Tu as quelque chose à me demander ?»
Oui,
articula enfin Étienne. Depuis hier, j'ai pensé à ce métayer de la Fénicardière. Je viens te prier de donner des ordres pour qu'on le laisse en paix dans sa borderie. M. Mouga continuait à chiffrer d'un air indifférent.
Je croyais, répliqua-t-il sans lever la tête, t'avoir fait comprendre que ce paysan s'abuse. Je ne suis pas son créancier, et il ne dépend pas de moi d'arrêter les poursuites.
Ce créancier, ne serait-il pas l'homme qui sortait d'ici quand j'y suis entré ?
Quel homme ?
Jean Berloquin.
Possible. Berloquin a plus d'un débiteur vers eux, et je ne serais pas étonné que le père Jacquet fût du nombre.
Eh bien, alors, fit le jeune homme en arrêtant son clair regard sur celui de son père.
Alors quoi ? As-tu fini de me poser des rébus ?
Sur un mot de toi, Berloquin cessera les poursuites.
Tu plaisantes ? De quel droit irais-je me mêler de ces affaires ?
Du droit, répondit Étienne d'une voix ferme, que le mandant a de donner des ordres à son mandataire. Chacun sait que Berloquin est ton homme et qu'il n'agit que d'après tes inspirations.
Quelle sottise !
M. Mouga imprima une violente secousse à son fauteuil tournant et se trouva face à face avec son fils.
« Ah ça » continua-t-il sèchement, « de quoi te mêles-tu ? Qui diantre te pousse à fourrer ton nez dans des choses où tu n'entends rien ?
Si je m'occupe de cette affaire, c'est que je crois que ton nom et le mien n'ont rien à gagner à se trouver accolés à celui d'un berloquin. » Le banquier commençait à être sourdement irrité.
cela se voyait à la balafre qui coupait ses lèvres et qui devenait blanche dans les moments de colère. L'homme du peuple reparaissait alors tout entier, et les façons réservées, prises par M. Mauga dans le commerce de la haute bourgeoisie de Saint-Clémentin, faisaient place à la grossièreté native de l'ancien maçon.
« Nom du jour ! »
s'écria-t-il dans son patois poitevin.
« As-tu fini de me dragonner avec tes questions et tes scrupules bêtes ?
Est-ce que je m'occupe de ta peinture, moi ? Chacun son métier. Laisse-moi prendre soin de mon nom et tripoter mes affaires à ma fantaisie. Je t'amasse de l'argent. Que cela te suffise ? »
« L'argent n'est pas tout, » objecta Étienne.
« Tu trouves ?»
riposta ironiquement le banquier. « Et moi, je te dis que c'est le grand ressort. On n'est fort que quand on est riche, et on n'est riche que lorsqu'on sait tirer parti des hommes et des choses. Il y a des gosiers qui ont soif, et il y a des sources qui courent sous terre. L'homme habile est celui qui découvre l'eau et qui la met à la portée des gens altérés. Voilà tout le secret de la banque. Et c'est une bêtise de geindre parce que ceux qui ont trouvé la source se sont salis les mains en creusant la terre. Comprends-tu ?
Je comprends que la richesse est une force, mais est-ce une raison pour que nous la fassions passer avant toute considération d'honorabilité et d'humanité ?
Des mots !
Dit M. Mauga en haussant les épaules.
La vraie honorabilité consiste à faire résolument son métier. Ce sont les petits esprits qui s'imaginent qu'on se déshonore en traitant les affaires en homme d'affaires. Mais le monde ôte son chapeau devant ceux qui savent gagner de l'argent. Et il a raison.
Oui, répondit Étienne en hochant tristement la tête. On ôte son chapeau devant eux, mais par derrière, on en dit pique-pendre. Ce n'est pas du respect, cela. C'est de la crainte.
« Eh bien, après !»
s'exclama M. Mauga en se levant et enfonçant ses mains dans ses poches.
« Si les peureux sont en majorité, c'est au fort à escompter leur faiblesse. Mon pauvre garçon, tu es encore naïf avec tout ton esprit. Tu ne connais pas le monde. Ces prétendus honnêtes gens qui te débitent un tas de phrases hypocrites sont tout simplement des renards qui trouvent les raisins trop verts. Au fond, ils portent envie à tes écus, et si tu n'avais plus le sou, ils seraient les premiers à te tourner le dos. Je connais cela, moi qui ai mangé de la vache enragée avant d'être à l'aise et qui ai vécu avec les pauvres. Ils ont les mêmes vices que les riches, avec la lâcheté et la jalousie en plus. Voilà tout !»
Étienne écoutait son père avec stupeur et ne se sentait même plus la force de répondre. Pendant ce temps, dans le sombre cabinet maussade, la pendule continuait son tic-tac régulier et il semblait au jeune homme qu'à chaque battement des secondes, une de ses illusions s'en allait. Chaque mouvement du balancier lui enlevait une parcelle de son respect pour l'autorité paternelle et la remplaçait par une dose égale de répulsion et de méfiance.
« Ça t'étonne ?»
poursuivit M. Mauga en se rasseyant et en fixant ses yeux durs sur la figure effarée de son fils. « Tu vérifieras l'exactitude de mes paroles quand tu mettras toi-même la main à la pâte. » Et comme Étienne avait un mouvement d'effroi,
« Oh, rassure-toi, » continua-t-il, « ce ne sera pas demain. Tu n'es pas mûr pour les affaires. Livre-toi à tes goûts. Amuse-toi. C'est encore une manière d'apprendre la vie. Seulement, » dit-il avec un rire presque cynique, « tout le monde ne peut pas en user. C'est une éducation de luxe. Et il faut, pour cela payer, avoir un père qui vous ait amassé des pistoles.
puisque tu as eu cette chance, profites-en, prends du plaisir, mêle-toi aux jeunes gens de ton monde, et même des maîtresses. Je ne suis pas un puritain, moi, ni un père grognon.
Je sais qu'il faut qu'un jeune homme jette sa gourme.
Va donc de l'avant et jouis de ta jeunesse, mon gars. C'est tout ce que je te demande pour le quart d'heure. »
Étienne n'en croyait pas ses oreilles, et son ahurissement redoublait.
« Merci, répliqua-t-il tristement. Ces plaisirs-là ne me tentent pas. »
« Bigre, tu fais bien le dégoûter.
Tu boudes contre ton ventre parce que je refuse de t'aider à jouer au redresseur de tort ?
Mais tu es un sot, mon pauvre ami.
J'aurais bien voulu, moi, que pareille aubaine m'arrivât à ton âge. J'avais bon appétit de plaisir, et la vue des jolies filles me faisait venir l'eau à la bouche. Mais j'étais obligé de me serrer le ventre et de mettre une martingale à mes désirs. Tandis que toi, tu trouves en te levant ton pain tout cuit et doré à point. Tu serais une bestiasse si tu n'en usais pas pour te donner du bon temps. Ne fais donc pas la fine bouche et cours le monde. Je ne te demande qu'une chose, c'est de ne pas t'endetter. Et, quand ton gousset sera vide, d'avoir recours à moi directement.
À ce propos, ajouta-t-il en ouvrant un tiroir, je songe que tu dois être un peu désargenté.
Il rompit un rouleau d'or et aligna sur la table 50 pièces de 20 francs qui jetèrent leur éclat fauve dans la pénombre du cabinet.
Tiens, reprit-il, voici pour tes menus plaisirs.
Et surtout, plus de don quichotisme.
Ne te mêle plus de mes affaires et ne t'avise pas de fourrer ton doigt entre la vis et l'écrou.
Étienne, rouge et mal à l'aise, faisait déjà un geste négatif quand cette dernière recommandation le frappa, et une réflexion soudaine, lui traversant le cerveau, arrêta le refus qui allait jaillir de ses lèvres. La pendule sonna la demie et le banquier consulta sa montre.
« Prends vite, s'écria-t-il, et laisse-moi, je suis pressé. »
Le jeune homme ramassa les pièces d'or et les jeta dans sa poche.
« Merci, murmura-t-il entre ses dents, mais on sentait que son remerciement lui déchirait le gosier.
Monsieur Moga avait ouvert la double porte et Étienne s'éloigna la tête basse. Dès qu'il fut dans le vestibule, il prit son chapeau et s'élança hors du logis. Il avait hâte d'être au grand air. Ses tempes battaient et il éprouvait à la poitrine un étouffement douloureux. Ainsi, tout était vrai, lamentablement et honteusement vrai. Thérèse Desroches n'avait rien exagéré. Les Jacquets n'avaient pas menti. Les méfiances des paysans du Breuil n'étaient pas injustes. Monsieur Moga faisait l'usure ou quelque chose d'approchant, de compte à demi avec Jean Berloquin, un homme taré. Contre cette accusation déshonorante, non seulement le banquier ne s'était pas défendu, mais il se glorifiait de gagner de l'argent à un pareil métier, et il se moquait audacieusement des mépris de la foule. Étienne sentait un atroce déchirement intérieur, en songeant qu'il portait un nom exécré par tous les malheureux qui avaient été les victimes de la maison Moga. Il rougissait de nouveau, à la pensée que son père avait tenté de l'associer à de pareilles manœuvres, en le poussant vers une vie de plaisir et de dissipation qui lui créerait des besoins d'argent et le mettrait à la merci de M. Moga. « C'est encore une façon de prêter à usure, » se disait-il amèrement. Et tout d'un coup, il restait immobile au milieu de la campagne. Il suffoquait de colère, de honte et de chagrin.
Et cet homme-là était son père. Étienne l'avait aimé et, malgré tout, il sentait encore en lui son amour filial pleurer et se débattre comme un agonisant qui ne veut pas mourir. Ses pieds butèrent contre une touffe de genêt et en même temps, dans sa poche, tintèrent les pièces d'or du banquier. Ah, cet argent de malheur! Du moins, celui-là retournerait à la source appauvrie d'où on l'avait fait jaillir goutte à goutte. Le jeune homme, debout comme une statue de pierre au milieu des champs moissonnés, regardait à ses pieds la vallée de la Charente, au flanc de laquelle les borderies de la Fénicardière se détachaient, grises parmi les noyers et les châtaigniers. Ce paysage où couraient les ombres des nuées et qui lui avait paru si charmant la veille, l'inquiétait de toutes parts. Au long des jarriges couvertes de chardons et à la lisière des breuils giboyeux, au milieu des bruyères et du fond des masures enfouies sous les arbres, des voix de paysans allaient s'élever tout à coup pour crier contre l'homme qui leur avait pris sou à sou leur épargne, arraché lopin par lopin leur héritage. Comment oserait-il à présent passer le front haut à travers cette campagne qu'il aimait tant? Il croirait lire un reproche dans chaque regard, surprendre dans chaque bouche une malédiction prête à sortir. Non, il ne voulait pas être plus longtemps le complice inconscient des spéculations à l'aide desquelles la maison Mauga attirait dans sa caisse l'argent du pays. Il ne voulait pas d'un luxe provenant d'un pareil trafic, et il disait adieu à tout plaisir, en songeant avec quel or il faudrait le payer. Avant de sortir des chaumes où il se trouvait, il avait déjà arrêté un plan de conduite pour l'avenir. Il continuerait sérieusement ses études de peinture, entrerait dans quelques mois à l'école des beaux-arts et se mettrait ainsi en mesure de gagner son pain le plus tôt possible, afin de ne plus rien devoir qu'à lui-même. En attendant, il était décidé à se refuser tout superflu et à ne demander à la bourse paternelle que le strict nécessaire. Si peu que je prenne de cette fortune, ce sera encore trop, et cet argent me pèsera lourd, murmurait-il en suivant l'allée de noyers qui conduisait à la Fénicardière. Il gagna rapidement la métairie de Jacquet. Le logis paraissait désert, et les portes étaient fermées. Les poules gloussaient doucement au soleil en épluchant le fumier, et une petite fille, jambes nues, la jupe en haillons et la tignasse ébouriffée, poussait devant elle une bande d'oies qui cheminait en se dandinant vers l'entrée de la cour. Étienne heurta à la porte et une voix faible lui cria d'entrer. Ébloui par le grand soleil, il ne distingua rien d'abord dans la pièce très sombre, éclairée à peine par une étroite fenêtre où pendaient des moules à fromage. Peu à peu, il aperçut, au fond du lit en forme d'armoire, une femme couchée qui le regardait avec des yeux enfiévrés et craintifs. Il demanda à parler au père Jacquet.
« Ah !» répondit la malade d'un ton plaintif. « Il n'est pas là, le pauvre homme. Il est allé à Saint-Clémentin à cause des misères qu'on lui fait. Ne veulent-ils pas maintenant vendre tous nos meubles dimanche, à l'issue de la messe? Et où irons-nous, nous autres, pauvres? Moi, en maladie comme je suis, je ne peux pourtant point coucher Émile Labrande à la Belle Étoile, comme une bête sauvage. Et pensez que c'est un homme qui boude dans l'or, qui nous fait toutes ces tablatures. Voyons, dites, monsieur, est-ce juste ?
La voix de la mère Jacquet devenait de plus en plus gémissante. Elle prenait Étienne pour un des gens de justice et cherchait visiblement à l'apitoyer. « Pour quelle somme le père Jacquet est-il saisi ?» demanda le jeune homme.
« Pour une misère, mon bon monsieur. 30 pistoles que nous devons à ce chétis berloquin. Mais il y a les intérêts et les frais, Dieu de la sue. Et ça fait gros, tout près de 800 francs qu'on réclame à Jacquet. Et tout sera vendu s'il n'a pas payé avant dimanche. 800 francs! On aurait beau se saigner aux quatre veines, on ne les trouverait pas. Autant vaut laisser tout s'en aller à Baribara.
Tenez, fit Étienne, en posant brusquement sur une petite table l'or donné par son père. Voilà 1000 francs. Dites au père Jacquet de tout payer dès demain. Les pièces tintèrent en tombant. La mère Jacquet, ahurie, s'était dressée sur son séant, regardant alternativement les Jaunets et le jeune homme, et n'en croyant pas ses yeux.
« Des louis d'or ! » s'exclama-t-elle enfin.
« Des louis d'or à poignée ?
Ah, bonnes gens, je n'en ai point en vue depuis que je suis au monde. Et ce n'est point une menterie, mon bon monsieur. Tout ça est à notre homme pour de vrai. Vous ne voudriez point nous éprouver et vous moquer d'une pauvre femme malade ?»«
Rangez cela, » répéta Étienne, « c'est à vous. » »«
Et comment vous appelez-vous, mon bon mignon jeune monsieur ? Que je puisse au moins mettre votre nom dans mes prières du matin et du soir ?»«
L'argent ne vient pas de moi, » interrompit Étienne. Et, pris tout à coup d'un reste de pitié et de tendresse pour son père, « C'est M. Mauga qui vous envoie cela, mais à la condition que vous n'en parlerez à personne. Bonjour. » Il se sauva, tandis que la voix pleurarde de la vieille le poursuivait d'une longue litanie de merci et de bénédiction. « Enfin, » pensait-il en s'éloignant, « ceux-là seront toujours en moins dans la foule des gens qui nous maudissent. »